Ensuite, ça c'est un scoop de ouf, je sais pas si c'est... ça c'est un bon scoop et je sais pas si je fais bien d'en parler.
Ça a commencé
quand
même.
Tu fais des montages, non ?
Je fais pas beaucoup de montages.
C'est une question importante. Si tu fais pas de montage.
Alors.
Donc je disais que je suis rwandaise, j'ai vécu au Rwanda, je suis née au Rwanda, j'ai vécu le génocide, j'étais là, j'ai.
Salut Gérardine.
Bonjour.
Merci beaucoup. Je suis très content de t'avoir et merci beaucoup de me permettre de pouvoir discuter avec toi. Ça fait un moment qu'on avait prévu de le faire. On avait décalé et là tu es à Abidjan, donc on a l'occasion de se rencontrer et de le faire en présentiel, donc avec beaucoup de plaisir. Je vais t'essayer de te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas, me dire ce que tu veux dire, peu importe comment tu veux te présenter et après on déroulera le cours de l'interview.
Ça marche, donc je vais faire une petite présentation sommaire.
Okay.
Et ensuite on ira
deep down.
On ira exactement. Donc, mais moi je suis contente aussi, je trouve que c'est une très bonne initiative.
Merci beaucoup.
C'est vrai qu'on avait eu du mal à trouver un créneau. Donc je suis ravie que ça se fasse. Donc je suis Gérardine Mahoro, rwandaise d'origine, vécue au Rwanda l'enfance et puis grandie un petit peu à l'étranger, en Afrique et en Europe.
Okay.
Et je travaille à la Banque africaine de développement où je gère un fonds qui accompagne les pays en matière de gestion des ressources naturelles.
D'accord.
Et par ailleurs, j'ai eu une petite expérience entrepreneuriale dont on va peut-être parler après. Et je suis passée par PwC, toujours sur le conseil et stratégie Afrique francophone. Voilà, c'est un peu la carrière professionnelle, mais professionnellement et personnellement, je navigue vraiment entre l'Afrique
et
l'Europe, l'Afrique et la France.
Et PwC, c'était l'équipe Afrique de PwC ?
Oui.
C'est vrai ? Avec Olivier Chevillier ?
C'est ça.
C'est vrai ? j'étais à deux... Alors, j'étais moi dans l'équipe Énergie, Industrie et Services, qui était...
C'était pas le même desk.
Exactement.
Olivier et Jean-Roland partageaient.
Jean-Roland, Didi, ouais.
Bien sûr. Mais moi, j'étais jamais là parce que j'étais en mission tout le temps.
En Afrique tout le temps.
Donc franchement, j'étais jamais au bureau à Paris.
Baba, il est arrivé à...
Il est arrivé après. En fait, quand j'étais là, donc il y avait Jean-Roland, Olivier et puis... comment il s'appelait, Sheidan, qui était stagiaire à un moment.
D'accord.
Et
l'associé. L'ABU voilà. Est dissoute. Hein. L'ABU est morte maintenant. Hein. Y a
je
plus...
sais,
ouais.
Juste après que je sois partie. ils m'ont emmené pour la renforcer. Et d'ailleurs, ma première mission, c'était la Côte d'Ivoire.
Ah ouais?
Et la BAD. Donc,
d'accord.
Vraiment,
bon.
Ouais, la première, c'était la Côte d'Ivoire. La deuxième mission, c'était la BAD. J'étais sur Conseil Stratégie Afrique francophone, mais pas dans un secteur.
D'accord, oui, c'est pas sectorisé.
Tu verras dans la discussion que souvent c'est comme ça. Je suis pas dans un secteur. Souvent, je suis très transversale sur l'Afrique et je sens que c'est ce que PwC est venu chercher.
Ouais.
Et donc, ma première mission, c'était le plan social du gouvernement de la Côte d'Ivoire en septembre 2018. Donc, je suis vraiment pas restée au bureau à Paris. Quoi. J'étais
re-Abidjan.
J'ai quitté Abidjan. En fin mai, début juin 2018. Okay. Et en septembre, j'étais retour avec PwC. Et après, la mission suivante, c'était la BAD. Donc là, pour la mission Côte d'Ivoire, PS Gouv de la Côte d'Ivoire, c'était l'équipe stratégie et conseil PwC.
D'accord.
Et ensuite, derrière, j'ai enchaîné avec une mission avec l'équipe Space de PwC, mais à la BAD.
Qui était donc, dans ma BU.
À chaque fois, dès que c'était Afrique, ils essayaient de me mettre dessus pour accélérer. Parce que là, en l'occurrence, ils essayaient de tester leur solution satellitaire pour, d'observation. Enfin, chercher des partenaires pour pouvoir tester ça pendant 3 ans, l'imagerie satellitaire.
D'accord.
Et compagnie. Et ils voulaient faire un partenariat avec la BAD. Pour pouvoir utiliser ça en tout ce qui est fragile state, quoi. Enfin, maintenant on dit pays en transition.
C'est clair.
Il n'y a plus de pays fragiles, on dit pays en transition. Et voilà, pour tout ce qui est pêche illégale, déforestation, etc. etc. Et PwC, donc j'ai cru voir que cette équipe est en train de se renforcer.
Ok, Space, ouais.
Voilà, ils travaillent beaucoup avec l'ESA. C'était un truc où ils étaient entre deux. Et donc, ils m'ont mis dessus pour aller chercher le partenariat avec PwC.
Okay.
Donc, voilà. Ouais.
Ok. Bon, bah, j'aime beaucoup. En fait, pendant les podcasts, je découvre souvent des choses. Tu vois, il y a 3 semaines, j'ai découvert que je connaissais le mari de la personne que j'interviewais. On ne savait pas tous les deux. Et donc, là, je découvre qu'on a fait. Qu'on aurait pu s'asseoir dans le bureau très proche. Ouais. Ok. Alors, je te pose quand même la question, je sais que tu répondras comme tu le sens. Mais la question que j'aime bien poser pour commencer, c'est comment tu as grandi et quelle est l'influence de ton enfant sur la personne qui est devenue aujourd'hui.
Oui, alors honnêtement, c'est une question... J'ai eu une enfance assez particulière, donc je ne sais pas si c'est cette enfance-là qui a guidé les choix de ma vie ou si je suis juste comme ça, il y a des sensibilités qui font que... Parce que même si j'ai eu une enfance particulière, mes frères et sœurs n'ont pas forcément fait la même chose que moi. Ou les personnes qui ont vécu les mêmes choses n'ont pas fait les mêmes choix. Donc je pense qu'il y a aussi un petit côté de personnalité. Mais je pense que très jeune, j'ai eu des curiosités qui étaient liées. Je pense que j'ai vécu des choses qui ont touché ma sensibilité personnelle. Et la curiosité a fait que j'ai voulu comprendre des choses que peut-être mes frères et sœurs n'ont pas voulu. Ils ne s'intéressaient pas. Donc voilà, il y a un mélange comme ça. Parce que donc, je disais que je suis rwandaise, j'ai vécu au Rwanda, je suis née au Rwanda, j'ai vécu le génocide, j'étais là, j'ai eu les parents qui ont travaillé un peu partout, enfin un peu partout c'est trop dire, mais en tout cas dans des pays différents, des cultures différentes. J'ai vécu en Belgique, en France, au Rwanda, au Cameroun et d'autres pays africains. Et c'est vrai que j'étais tout de suite baignée dans des conversations, enfant, il n'y a pas, c'est pas des conversations, mais en tout cas, sur les questions de paix, sécurité, guerre, famine, mouvement, immigration, logement, vraiment des problématiques africaines de base, que je vivais personnellement. Du coup, forcément, les ONG, les orations internationales, l'ONU, les casques bleus, enfin tout ce qui va autour, tout l'écosystème là de ça. Et donc, je pense que ça a réveillé chez moi quelque chose de, une curiosité de chercher à comprendre. D'abord, une admiration pour ces ONG là, parce que quand t'es enfant, tu les vois, ils sont ce qu'ils font par rapport à la vie des gens.
Bien sûr.
C'est pas à la télé quoi, tu vois, donc tu bon, là, je vais parler d'autres personnes dans mon podcast, mais c'est parce qu'on venait d'en parler avec Rémi, on se marre parce que, en fait, il a vécu des trucs comme ça. Et il y a un truc, c'est pas que Rémi, hein. Franchement, on est tous vieux. Il y en a, ils sont à Londres, ils ont des carrières de dingue. Et souvent, on reparle de quand on était petit, où les gens d'ONG passaient comme ça avec des espèces de gros seaux à biscuits. Okay. C'était un genre de biscuit, donc ils me disaient, mais moi, je ne peux plus les voir. C'est-à-dire que j'ai essayé...
Il y a l'horreur du biscuit. Ouais. Il y en a trop mangé.
Même, tu as trop vu, et puis c'est lié émotionnellement. Lié, bien sûr. Et donc, il y a un genre de biscuit, un genre de céréales qu'on déteste.
Okay. Bah, Rémi and Sabimana. Qui est passé sur podcast et qui est journaliste à Al Jazeera aujourd'hui.
Al Jazeera, exactement. Qui traite d'Afrique. Et je pense qu'il y a des petites choses comme ça qui marquent. D'abord, il y a l'admiration de ces personnes qui travaillent dans cet univers-là. Petite, je ne me dis pas je veux être comme eux, mais bon, je pense qu'il y a un peu... je vais bosser dans les instances internationales. La justice, bon, je ne m'étais pas dit je vais bosser pour les instances internationales, je voulais être avocate, par exemple.
D'accord, ok.
Sur les questions d'injustice. Et puis, la curiosité sur l'histoire. Pourquoi eux, c'est qui? Pourquoi ils se battent? Pourquoi ça va, ça vient? Enfin, les querelles, l'envie de comprendre. Donc, tu pars du Rwanda, et puis du Rwanda, tu vas à la colonisation, tu vas plus loin, tu vas chez les voisins, et puis ça devient, finalement, je m'intéresse c'est à l'histoire énorme, africaine. Bien sûr. Puisque on a beau avoir tous les problèmes, enfin tout est lié. Et puis plus tard, donc je suis à fond sur l'Afrique. Et puis plus tard, tu te rends compte que pendant que ton histoire s'écrit en Europe, il se passe ci, il se passe ça, et tu vois les liens qu'il y a. Comment on dessine, comme dirait Galfal, on dessine à l'équerre, Voilà, comment ils tracent les frontières, l'impact que ça a sur nous, comment ça vient. Vraiment voir l'histoire dans ton quotidien. Et ça, c'est toujours lire la même chose, mais selon ta maturité, selon la période de ta vie, tu comprends pas de la même manière. Et voilà, tu peux revoir le même bouquin encore et encore, mais tu comprends toujours d'une manière différente. Et donc, mon rapport à l'Afrique, c'est un peu ça. Okay. Mon rapport à l'Afrique et la position de l'Afrique, ça commence très jeune. Ça commence à mes 7 ans et ça s'est jamais arrêté, en fait.
Et tu pars, du coup, tu t'installes France-Belgique. T'étais bonne élève ou...
J'étais assez moyenne, en fait. Pas de difficultés particulières, mais pas première de la classe non plus. Okay. Je prenais pas la tête, je pense, jusqu'à la première.
T'as un déclic en première?
J'ai pas un déclic. On va dire qu'en première, même pas en première, je reviens sur la troisième en réalité. parce que en troisième je commence à avoir des difficultés parce que j'ai sauté deux classes. D'accord. J'ai sauté la classe de CM2.
Okay.
Donc je vivais au Cameroun et on avait la possibilité de faire CM1 6e, donc j'avais sauté le CM2. Et ensuite, ça c'est un scoop de ouf, je sais pas, c'est un bon scoop et je sais pas si je fais bien d'en parler. Je t'avais prévenu avant d'enregistrer que c'est la première fois que je parle de ma vie. C'est la toute première fois que je parle de ma vie. En général, je fais des conférences, je parle de mon boulot.
C'est vrai.
Et en fait, quand on a quitté le Cameroun, mais bon, en fait, on a fait beaucoup de pays parce que mes parents attendaient de rentrer au Rwanda et eux, c'était pas.
Ils voulaient pas partir.
Ils voulaient pas forcément aller en Europe. J'ai un grand frère qui est très asthmatique et vraiment des crises, des très très grosses crises. On avait aussi peur qu'aller dans le froid, voilà. Grâce à Dieu, il n'a plus jamais eu de crise. Donc, on a compris que c'était plus la poussière qui lui causait des crises.
J'ai la même chose.
Il est en bonne santé, mais aussi parce que notre vie, c'est le Rwanda, en fait. Et donc, arrivé au Cameroun, je fais le CM2, CM1, je saute au CM2, je vais en 6e. Et à la fin de l'année de la 6e, mes parents décident d'aller en France.
Okay.
Et qu'arrivé en France, mes parents ne connaissaient pas trop le système français, ils ont fait leurs études en Belgique. Il y a longtemps, et c'est différent, même maintenant, ça reste différent, les systèmes en français en Belgique. Et encore, c'était à l'université. Mais des amis nous disent, mais vous savez, ils ont tendance à faire redoubler les enfants ou des trucs comme ça. Et donc, j'ai menti.
Ah, que j'étais à une classe supérieure.
Ouais.
D'accord.
Ils nous ont fait passer les tests, en plus, en petite rwandaise qui a fait six trucs. On se force à aller voir le psy, à aller dehors. On te met dans un parcours, bon, tu suis.
Ouais.
Et on a dit, OK, vous êtes dans quelle classe? J'ai dit, non, je suis en quatrième. Et je me suis dit, on va faire les tests, je vais aller en cinquième. Et c'est comme ça que j'ai jamais fait de cinquième.
Ils t'ont mis en quatrième?
Et je suis allée en quatrième, ça s'est très bien passé.
C'est vrai? Équation?
Non, ça s'est très bien passé. Et en troisième, les affaires d'équations, j'ai compris qu'en fait, la base des équations, c'est en cinquième.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais oui,
vrai travail, c'était en troisième parce qu'en quatrième, bon, il n'y a pas que les équations,
il y a
les théorèmes, il y a tous les trucs, j'arrive à avoir la moyenne, même si les équations, c'est pas terrible. Et en plus, franchement, c'est chaud de reprendre.
Non, mais ouais. C'est horrible sur les maths, quoi. Ok.
Donc, la troisième et la seconde, franchement, c'était difficile.
Et tu fais littéraire, c'est littéraire ou pas du tout?
Non, j'ai oui. Mais après, j'ai changé, je fais ES aussi.
Ok,
et,
d'accord.
Et en fait, c'est vrai que je ne savais pas, quand on arrive au moment où il faut faire des vœux. Donc je vous disais qu'il y avait cette question de justice qui était là, je vais être avocate.
Et tu parles des choix pour aller à la fac.
Mais c'est aussi déterminant par bien rapport sûr. À... Voilà, moi je savais que de toute façon c'était ça, ce genre de... J'avais pas besoin d'aller à un S pour... Et en plus j'étais nulle en maths, comme tu as compris. Donc franchement c'était pas... Je me suis dit pour ce que je veux faire, c'est très bien. Donc voilà. Et voilà. Et dans mes choix, c'est vrai que... Après, j'ai fait un stage en France dans un tribunal pénal pour voir un peu et j'ai compris que le métier de droit n'a rien à voir avec la justice. Mais bon, après, t'es lycéen, t'as pas toute la palette des métiers du droit, mais quand même assez pour se dire que ok, il y a le métier d'avocat et puis il y a la justice et c'est deux choses différentes.
Et
c'est comme ça que je suis pas devenue avocate.
Tu choisis quelle filière du coup
J'ai fait une prépa d'art.
D'accord.
Dit avocat.
Ok.
Ouais, déjà à l'époque, déjà, en fait, depuis toujours, je suis toujours okay, sur les questions africaines, sur l'histoire. Je pense que j'ai une certaine sensibilité.
Quand on est rentré, tu as reconnu des choses.
Oui.
Que moi, j'ai pas compris.
Et toi, tu n'as pas compris.
Donc, je comprends maintenant.
Oui, en fait, bon, pour que les gens comprennent, on est en train d'enregistrer à la Villa Lévique. Il y a énormément d'œuvres d'art. Il y a pas mal de. Des tableaux, des sculptures. Et c'est vrai que quand on est rentré, je reconnaissais le travail d'artiste que j'aime. Fait en Côte d'Ivoire en plus, c'est vrai.
D'accord.
Donc j'ai toujours eu cette sensibilité. C'est une sensibilité générale.
D'accord.
Dont la ligne rouge reste l'Afrique. L'histoire, la politique, la géopolitique. De toute façon, on ne peut pas aimer l'histoire sans s'intéresser à la géopolitique, sans, etc. Et l'art. Je sais pas, je suis la seule artiste, je suis pas artiste d'ailleurs, je suis la seule personne sensible à l'art dans ma famille, donc je sais pas d'où c'est venu. Et je peignais déjà ado, okay. Je peignais, j'étais déjà dans, je faisais les deux associations relatives aux problématiques africaines. J'ai vraiment été dans pas mal d'associations avant même mon bac. Et puis je faisais, et puis je peignais, j'écrivais. Et donc, comme je n'allais plus être avocate, je me suis dit bon, on va aller dans l'art. Et okay. J'ai fait une première année, la première année généraliste, et j'ai fait ma première année tout en continuant à être dans mes associations. Et en fait, au bout d'un moment, évidemment, tout le monde essaie de te décourager. Oui, mais tu ne gagnes pas ta vie dans l'art. Et en plus, ce n'est pas précis. Ce n'est pas je fais de la sculpture et je suis douée là-dedans. Non, j'étais partie pour de longues études dans l'art. C'est vraiment de longues études.
Est-ce que à cette époque, tu avais un plan pour aller au musée Quai Branly, enfin, est-ce que tu avais un plan comme ça de diriger des établissements
Non, j'allais dans l'art pour moi être artiste.
D'accord.
Ouais. Okay. Et c'est là où c'est difficile. Mm-hmm. C'est aussi là où les gens disent mais non, mais c'est vraiment un chemin compliqué et difficile. Mm. Je ne savais pas ce que je peignais, mais je ne savais pas si je voulais être dans la peinture. Et donc, je partais vraiment pour de longues études dans l'art, parce qu'au début, tu fais de l'histoire de l'art, tu découvres toutes les techniques, tous les machins, et ensuite, c'est comme si on se spécialise en D'accord, quelque sorte. Il y a plusieurs types. En fait, l'art, c'est hyper vaste, quoi. Si on ne vient pas avec une chose précise. Qu'on veut travailler, on n'est pas obligé d'aller à l'école d'ailleurs, hein, mais qu'on veut travailler, à perfectionner, et voilà. Il y a des écoles d'art, les Beaux-Arts à Paris, c'est 6, 7 ans, 5 Bien ans sûr. D'études, c'est voilà. Après, j'ai aussi, en même temps, j'essayais aussi avec une école, l'Institut français des arts appliqués, pouvoir aussi, parce que l'histoire de l'art, les Beaux-Arts, tout ça, c'est vraiment l'art pur et dur, qu'on peut considérer pas trop moderne. Après les arts appliqués, là il y a d'autres choses, de la direction artistique, du design, de voilà, des choses un peu plus
poussées,
plus moderne, on va D'accord. dire. D'autres métiers quoi qu'on n'aurait pas dans l'autre école, donc j'ai un peu tâtonné dans les deux, mais en même temps j'étais toujours impliquée au niveau des associations. Et au bout d'une année et demie, en fait, j'ai juste inversé, parce que je passais trop de temps sur les questions africaines en réalité.
Okay.
Et donc j'ai inversé pour que l'art devienne ma passion, et c'est là où je suis partie sur les sciences politiques et le management, quoi.
Ok. Ouais. Donc tu fais un master en sciences politiques.
Ouais. Et okay. management.
Est-ce qu'à ce moment-là, un profil de carrière commence à se dessiner, ou c'est toujours je suis le train, je ferai bien?
Ça se dessine quand même, parce que je fais le choix de la Sorbonne parce qu'ils ont un master coopération internationale études africaines.
Okay.
Sciences Po n'a pas ça, par exemple. Donc la dernière année, je fais Sorbonne. La carrière se dessine pas, mais en fait moi c'est l'Afrique, c'est-à-dire que même si où que je sois, je bosse sur l'Afrique, et à chaque fois je suis amené à faire un choix, ça va toujours
vers l'Afrique.
Donc quand je décide de faire mes études, c'est vraiment pour être encore plus dans les sujets que je travaille depuis ado, depuis petite, mais d'une manière essayer d'avoir un boulot là-dedans. Donc je ne me voyais pas diriger une entreprise, c'était pas ça que je cherchais, je voulais travailler sur les questions africaines, ça aurait été dans les relations internationales, dans la diplomatie, dans les relations internationales ou quoi, mais c'était toujours, à cette époque-là, c'est là où je me rends compte que j'étais quand même assez obtus, mais c'est l'époque qui voulait ça. Hein. Je fais pas mal de conférences où j'explique que le truc de non-profit versus capitalisme, là, ça n'existe pas, mais quand... Notre génération a grandi avec ça. Il y a ceux qui sont dans le non-profit, je ne sais pas comment on dit ça en français, donc désolé.
Dans de...
à but non lucratif.
Ouais, à but non lucratif.
Voilà, dans du business à but non lucratif.
Mais qui gagnent beaucoup d'argent.
voilà, les organisations internationales. Et puis, il y a ceux qui sont dans le privé, le capitalisme méchant et tout ça. Et on a grandi. C'est en gros les méchants et les gentils.
Bien sûr.
Sauf que voilà. Donc, je pense que moi, je vais plutôt aller dans
du non-profit.
Je dis pas je vais aller dans le non-profit, mais je veux aller dans les métiers des relations internationales. Ça peut être avec un gouvernement ou avec une entreprise. Une organisation internationale. Je vais toucher des questions de politique, de géopolitique, de développement. Maintenant, avec qui? J'avais pas une carrière précise. Quoi.
C'est dur en plus. Moi, j'ai fait Saint-Cyr, et à Saint-Cyr, j'ai un diplôme d'un master en relations internationales et stratégie. Et je me rappelle rappelle de l'avoir fait, bon, parce que moi, j'allais être, enfin, mon plan, c'est d'être officier. Mais du moment où j'ai décidé de quitter l'armée, je me suis dit, ok, bon, j'ai ce diplôme-là.
Trop de choix.
Où est-ce que je vais avec ça, tu vois, concrètement? Est-ce que je vais chez GIO, chez l'ADIT, tu vois, c'est des, tout ce qui est intelligence économique, intelligence de relations internationales et compagnie, ou est-ce que je vais plutôt vers les Nations Unies? Bon, j'ai pas fait tout ça du tout au final, mais en effet, c'est vrai que pour les personnes qui font ces parcours-là, c'est pas toujours très clair. Bon, la plupart du temps, pour les étudiants français qui vont faire Sciences Po l'ENA, ils vont avoir en tête de passer le concours du Quai d'Orsay pour rentrer au ministère des Affaires étrangères, et ensuite ils verront s'ils deviennent diplomates ou pas. Mais la partie, à la fois non-profit ou même for-profit, n'est pas toujours très claire pour les gens qui font ces masters-là.
Moi, honnêtement, profit ou non-profit, c'était pas mon critère. Okay. Il fallait juste que ce soit sur les questions de développement géopolitique. Et là, tu te rends pas compte à quel point c'est de l'économie, en fait, quoi.
Bien sûr, beaucoup.
Quand on parle, quand on est jeune, on se dit, ok, de la relation internationale, de la diplomatie, de tout ce qu'on veut. Mais bon, c'est vrai que quand ceux qui font Sciences Po, parce qu'à Sciences Po, c'était ma génération, maintenant ça a beaucoup changé. Je vois les cartes, la Sorbonne et autres, tous les parcours de sciences politiques. Maintenant, ils ont par exemple énormément d'études européennes parce que l'Europe est devenue autre chose et tout ça. Mmh. Études européennes dans les relations internationales. L'Asie, beaucoup est venue. Des choses vraiment très poussées sur l'Asie.
Chine.
Donc maintenant, on a aussi énormément de secteurs plutôt que de géographie. Nous, c'était très géographique. Et quelque part, perdu à la Sorbonne, il y avait
l'Afrique.
Voilà, coopération et puis Afrique. L'Afrique, c'était pas sexy hein, à l'époque. Franchement, c'était études européennes, Asie.
On tourne vers 2008, c'est ça hein.
Ouais, 2008. Mais même après les masters, franchement, tous ceux qui font école de commerce ou les universités, ils veulent aller en Asie. Mm-hmm. À l'époque, tout le monde voulait aller en Asie ou peut-être les États-Unis, ça reste, les générations. Mais c'est un moment où beaucoup de gens allaient en Asie, parce que l'entrepreneuriat, les nouvelles technologies, école de commerce, c'était très bien l'Asie, d'aller en Asie. Singapour, Asie, États-Unis, mais l'Afrique.
Et quand tu sors de ta dernière année de master, tu commences ta vie professionnelle, tu la commences dans quel secteur?
Déjà, pendant tout au long de mon parcours, je faisais déjà plein de stages. Okay. J'étais toujours en activité. D'ailleurs, on voit comment... Tu vois que dans ma carrière, vraiment, même les stages, dans mes stages, on voit vraiment l'évolution dans l'appréhension du monde. Mmh. Et dans ce truc de « il n'y a pas les gentils et les méchants ».
T'as commencé où?
Le plus important, c'est l'impact que je veux donner et comment je me sens dans ce que je fais, en fait. Parce que, par exemple, on voit tous mes premiers stages. Il y a des stages à l'UNESCO, il y a des stages à Amnesty International en Belgique, il y a des stages... j'ai été vacataire aussi avec la coopération française où je travaillais sur la coopération internationale entre la France et entre une mairie particulière et la région de Kayo Mali sur des questions d'eau et assainissement. Et ensuite le tout premier travail, on peut dire, c'est ni vacataire ni consultante court terme ou je sais pas, c'était la BAD.
Abidjan,
à Tunis,
ça avait bougé.
Ouais, à Tunis, ouais, c'était là-bas dans Tunis. Donc quand on voit que j'ai fait coopération française, Amnesty International, d'ailleurs Amnesty International avant que après je vais à la BAD, qu'après je vais chez PwC, on peut se dire mais est-ce capitaliste quoi.
Ça monte.
C'est ça, être capitaliste un petit peu plus tous les jours. Mais honnêtement, c'est pas ça. C'est juste que j'ai compris que l'impact, c'est pas.
C'était partout.
Un métier international n'a pas plus d'impact que une boîte privée ici à Abidjan, réellement. C'est-à-dire qu'une fois que tu es dedans, tu te rends compte des subtilités. Et puis en grandissant, je pense que nous, on est la génération qui a tout compris. Sur ça, je dis pas on a tout compris dans la vie, mais on a tout compris sur ces subtilités. C'est-à-dire que l'ONU maintenant fait peur à personne.
Bien sûr.
C'est l'ONU, mais quoi exactement? C'est on connaît. Donc, si tu as grandi en disant mon rêve, c'est de bosser à l'ONU, moi j'ai réalisé mon rêve de bosser pour une organisation internationale, en plus une organisation internationale africaine qui
a de l'impact.
Super bien notée, bien sûr. On a des résultats, on est peut-être lent, mais franchement, on a plein de résultats. Elle est triple A, elle est tout ce que tu veux. pour j'y suis allée dans ma vingtaine en Tunisie puis en Côte d'Ivoire. Mais en étant dedans, je vois que mon rêve a évolué, je veux plus d'impact et c'est pas donc voilà. Et c'est comme ça que je m'intéresse encore plus au développement par le secteur privé et que je cherche. J'ai pas cherché à aller chez PwC.
Ils sont venus te chercher ?
Ouais. Okay. C'est parce que j'ai des amis, d'ailleurs, félicitations Fabrice, et qui sont. Fabrice quoi.
Ah, comme non ? Ok, d'accord. Ah, il est au bureau de Paris ?
Non, il était ici.
Il était ici.
Il était à Bade ici. Donc
d'accord.
Ouais. Il me dit, ah bon, j'ai fait trop d'orga là, trop d'Afrique, mon CV commence à être machin, mais je sens que je vais pas faire mon trou. Mon ambition, c'est pas de diriger une organisation internationale ou des directrices de département et de réserve, parce que après, le CV est trop organisation internationale. Quand on passe de la BAD à l'ONU, à la Banque mondiale, à XY, on vient. Moi, je me suis dit, bon, il faut peut-être que j'aille dans le privé, avoir d'autres méthodologies, aller diversifier un peu mon CV et tout ça. Donc, moi, je m'étais dit, les gros cabinet, a priori ça me correspond pas forcément, mais même eux aussi hein, ils évoluent parce qu'ils sont hyper spécialisés, maintenant ils vont sur d'autres sujets où mon profil est très pertinent et je pensais peut-être KPMG, McKinsey, ça me correspond peut-être plus. C'est plus. Non, on veut développer justement le conseil, secteur public, Afrique. Il m'a travaillé. Donc, je suis allée à PwC.
D'accord, c'est par Fabrice que tu as eu, tu as connu Olivier et compagnie.
Donc, exactement. Donc, je travaillais un peu avec ceux d'Abidjan, mais surtout aussi avec ceux de RDC.
Okay.
Sur le secteur public, PwC, à l'époque, c'était.
C'était Japop,
Jacqueline.
En effet, mais c'est surtout qu'à Paris, il n'y avait pas beaucoup de cabinets qui faisaient l'Afrique. Il y en avait principalement deux, Bering Point.
J'avais eu un entretien avec eux.
D'accord.
Bering Point, j'avais eu un entretien avec eux, ce n'était pas passé. Et en plus, ils sont tech, ils sont quand même très...
Beaucoup.
Ils disent Afrique, mais quand même.
Bien sûr.
On voit, ce n'est pas moi. Je peux être pertinent. Regarde, pour PwC, je suis allée sur des partenariats space. Je sais pas que je suis spécialisée dans tout ce qui est space, mais je connais les gars d'ici. Je sais ce qu'ils cherchent, je sais la BAD, je sais les orientations internationales. Et souvent, c'est ça que les gens viennent chercher chez moi. C'est pas une spécialité dans un domaine, mais c'est comment faire ça en Afrique. Souvent, c'est ça en fait.
Ouais. Okay.
Donc, Bering Point, ça me correspond. C'est pas ce que je voulais faire. Ouais. Et ça m'apportait pas ce que j'allais chercher. Je n'étais pas en train de chercher un travail, j'étais en train de chercher
un impact en Afrique.
Un impact, PwC non plus, c'est pas non plus grand impact, hein, faut se le dire. Mais là vraiment, c'était un move dans ma carrière qui n'était pas forcément la recherche d'impact, c'était plus mettre du secteur privé dans mon CV. Il y a plein d'entreprises avec lesquelles j'aurais pu le faire, mais je me suis dit, si je bouge, c'est pour un gros logo, vraiment.
Okay,
si je bouge, si c'est pas McKinsey, si c'est pas même PwC, franchement, j'ai pas regardé. J'ai dit KPMG, McKinsey sur mes sujets, ou je voulais pas aller sur un fonds d'investissement parce que non, ça me correspond pas. Je peux leur apporter beaucoup, mais à d'autres niveaux, peut-être plus tard. Mais au niveau où j'étais, être noyé dans une équipe d'un fonds d'investissement, je sais que j'aurais été frustrée. Voilà, je suis du genre à beaucoup, I think out of the box all the time. Et donc, voilà, donc aller chez PwC, c'était pour prendre la formation, la méthodologie, rentrer dans le privé. C'est ça que j'allais chercher.
Est-ce que tu as souffert du cadre? Enfin, quand je dis du cadre, du formalisme, consultant senior, junior,
absolument.
C'est comme ça qu'on fait des slides, enfin,
t'as
un peu souffert.
Dit, hein.
D'accord.
Honnêtement, je trouve que j'ai fait beaucoup de choses avec PwC, ils sont venus me chercher pour une raison et ils n'ont même pas exploité
10%
de ce qu'ils sont venus chercher à cause de cette formation. Moi, j'étais contente d'avoir ces formations-là parce que honnêtement, il y a un avant après PwC, à force d'être resté dans la BAD, dans le truc. C'est un monde à part. Donc d'aller prendre des méthodologies de Big Four et d'apprendre à travailler autrement et tout ça, moi ça m'a beaucoup appris. Ça m'a vraiment ça m'a ramené d'autres performances dans mon travail, dans la rapidité, dans beaucoup de choses, et pas que dans les présentations PowerPoint. Ah ouais, mes présentations déchirent.
C'est 90% du travail quand même.
Voilà.
Mais après, c'est vraiment comment synthétiser de l'information qu'on va donner à un exécutif.
Oui, franchement, la manière d'aborder le travail est différente. Ça m'a beaucoup apporté. Mais comme je ne l'avais pas fait de conseil avant, ça a été 3 mois de formation, en présentiel, en ligne, en même temps que le travail. Vraiment, j'avais pas de vie, mais bon, il n'y a pas de problème.
Bien sûr.
Mais dans ça, et aussi, donc j'étais conseil, ils ne m'ont pas mis un grade, voilà. Bon, mon grade aurait été manager, mais sans avoir été dans le conseil avant,
c'est compliqué, bien
tu
ne
peux pas. Mmh. Donc, ils ont dû faire plusieurs adaptations par rapport à mon poste. Bon, moi, ils m'ont amené pour renforcer la partie conseil Afrique francophone, secteur public. Et ce qu'ils cherchaient chez moi, c'était vraiment la connaissance du terrain et la connaissance des acteurs, surtout la connaissance des acteurs.
Okay.
Et à force de... À cause de ce formalisme...
trop formatage, tu peux pas sortir
trop de formatage, trop de formatage. Honnêtement, ils ont pas profité de moi, quoi. Et il y a pas que ça. Ils sont aussi dans l'hyper optimisation de la secrétaire, de rentrer 16 heures, de.
C'est fatigant.
Comment dire, non, mais franchement. C'est même contre-productif en réalité. Ouais. C'est contre-productif parce que si tu as une assistante qui est l'assistante de 15 personnes, qui fait les billets d'avion, qui rentre les heures, qui fait etc. Si tu as fait des heures d'une manière extraordinaire par rapport au quotidien, tu lui fais un message ou tu complètes toi-même. Mais le truc où c'est le consultant qui est payé super cher de l'heure, qui prend, parce qu'au début tu dois comprendre, qui prend une heure pour rentrer des heures, je suis désolée, c'est un mauvais calcul.
C'est une heure qui est pas
pour rentrer tes heures. Enfin, tu coûtes cher. Tu comprends?
Il y a des à l'échelle de 6000 consultants.
À la journée, là, c'est le salaire d'une secrétaire. Et elle peut faire ça pour 15 personnes. Et tu vois, je comprends pas, moi. Donc des fois, j'étais là. Même j'oubliais. Moi, je pense qu'ils me doivent de l'argent, la vérité. Moi, je crois que j'ai oublié plein d'heures.
Les fiches de. Et puis surtout, les fiches de. Les notes de frais que tu dois tout faire.
Non, mais non. En plus, je suis à Abidjan. Il n'y avait pas Uber. Hein.
Taxi et puis les taxis n'ont pas de facture. J'ai le même problème à Conakry.
Moi, c'est en Afrique que j'aime être. Donc, va chercher les factures de taxi.
Mais il n'y a pas de facture. Mais oui, j'ai le même problème à Conakry. Avec Bering Point.
Donc maintenant, on a les factures, on a Uber, on a Yango, on a tous. Il y a Itch, j'ai vu. Il y a eu Africa à un moment. Mais il y avait Africa là qui avait commencé quand même. Quand je faisais mes missions, franchement, le truc de voilà, je pense qu'ils n'ont pas profité de moi, mais bon, après, voilà, j'ai eu ce que je suis allée chercher, je suis partie en fait.
Et après PwC, tu montes ton cabinet?
Je monte mon cabinet avec un très mauvais timing, juste avant le Covid, juste avant le Covid, début 2020, je monte mon cabinet. Et quand je le monte, et d'ailleurs, quand on regarde au niveau de la chambre de commerce à Paris, le numéro ciré a été délivré en avril 2020. On était déjà dans le Covid.
Ouais.
Donc ça a été vraiment une expérience folle.
Mais quand tu démissionnes, tu ne sais bien sûr pas qu'il y aura ça.
Non.
Tu démissionnes, tu montes ton cabinet.
Personne ne sait. Et en plus, au début du Covid, je ne suis pas non plus affolée parce que je ne sais pas si tu te rappelles, mais on parlait d'une semaine, au confinement une semaine, on en reparle, etc. Donc
et ça ne
permettait pas de planifier sur une année, de se projeter ou de mesurer les risques ou quoi, rien. Donc bon, on nageait avec le courant, sauf que les une semaine, deux semaines, c'est devenu un an. Avec énormément de dépenses, énormément des bureaux qu'on ne pouvait pas utiliser mais qu'on payait quand même. Nous, ils ont refusé de nous casser notre bail. Par exemple, tu vois, et mon associé était en Belgique, on avait un bureau aussi en Belgique, et en plus des bureaux où on s'était dit, bon, dans ce qu'on veut faire, on veut vraiment que, à un moment donné, quand on parle de Bruxelles et qu'on parle d'Afrique,
on vienne nous chercher directement.
Donc on a pris un bureau hyper bien placé pour justement être dans l'écosystème. Enfin voilà, c'est à Paris, on était sur Iéna, enfin, franchement, ils nous ont c'était une année, deux années, c'est pas que 2020, même 2021, vraiment on a nagé avec le courant.
Tu as quand même pu avoir des marchés?
On avait déjà des choses, déjà je bossais déjà avec même pendant que j'étais à PwC en 2019, je faisais déjà certaines choses parfois avec la Côte d'Ivoire, avec d'autres pays, mais c'est des contrats qui ont été repoussés
parce que les dirigeants ne savaient pas s'ils allaient avoir l'argent pour payer.
C'est ça. Donc les accompagnements et ce qu'on proposait, on était mis en attente pour une durée indéterminée.
Tu veux revenir sur ce que vous proposez avec Acte 5, donc ton cabinet?
Du coup, ces difficultés-là ont aussi permis de plus affiner l'offre. Encore une fois, la difficulté, c'est que quand on est dans... dans ce que je fais, la difficulté, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses avec beaucoup de gens. Et donc, les services peuvent être beaucoup trop diversifiés. Et je crois qu'au début, c'était ça. On faisait donc du conseil. Par exemple, je conseille certains ministres. J'ai voulu mettre ça dans Acte 05 au début, du conseil en termes de stratégie, de communication, de comment déployer une stratégie aujourd'hui, comment parler, comment le faire en Europe, dans les milieux occidentaux, mais ici, mais aussi avec les partenaires techniques et financiers. Il y avait ça, cette partie conseil. Il y avait aussi la partie réponse aux appels d'offres. Ça, on le fait un petit peu, mais c'est pas du tout. Il n'y a pas sur mon site, par exemple.
D'accord. Parce qu'un ministère qui émet un appel d'offres pour un accompagnement en général, à une entreprise française qui va prendre un appel d'offres en Afrique. Non, pas du tout.
C'est plus, par exemple, une entreprise privée ou un gouvernement ou n'importe qui a envie de postuler à un appel d'offres de la BAD ou d'un autre partenaire technique et financier. Parce qu'en fait, c'est des langages, c'est des choses. Okay. Souvent, ils ne savent même pas comment remplir. Souvent, en fait, moi, j'ai vu ça comme ça. Je me suis dit, on a commencé à faire au hasard des personnes. Il y a même un ami ici en Côte d'Ivoire qui a dit, il va mettre un de ses directeurs sur l'appel d'offres, mais il va y passer trop de temps parce que, par exemple, voilà, c'est ce qui m'avait sorti. Là, je pense à plein d'amis ici qui m'ont dit ça. À faire de notes conceptuelles.
Ok. Faire de notes conceptuelles, oui.
À faire de notes conceptuelles. Tu peux avoir fait école de commerce que tu veux. Tu peux avoir... Là, je te parle de grands patrons ici. Mais la note conceptuelle qu'on attend à la BAD, là, qu'on attend à la Banque mondiale, c'est un langage. C'est ce qu'on veut voir dedans. Est-ce que ça correspond à la stratégie de XY? Est-ce qu'il y a tel pilier dedans? Est-ce que... C'est pas...
Tu ne peux pas savoir si tu ne connais pas.
Leur projet. Eux, ils sont dans le secteur privé. Ils vont pitcher le projet. Il n'y a pas de problème, mais on n'est pas dans le pitch. Okay. On est dans un genre de...
Writing.
Un pitch long, tout ça là qui doit correspondre à trop de choses.
C'est pas des PPT, quoi. C'est un Word.
C'est un Word avec des conclusions, des contextes, des stratégies. Comment... ton projet s'aligne à telle stratégie que peut-être tu n'es même pas au courant qu'elle existe. Et puis, etc., etc. Sauf que moi, comme...
Tu y as travaillé.
Je connais déjà les stratégies, c'est un langage qui me parle, je sais faire ça. Donc, j'ai commencé à donner des coups de main comme ça, en fait. Et il y avait aussi ce service-là qu'on proposait. Il y avait la promotion de produits d'investissement, c'est-à-dire toujours en fait sur le constat que... Bon, je travaille beaucoup sur la perception du risque. À force d'être dans plusieurs univers... C'est tous les Africains
pour vraiment, changer le regard sur la perception du risque en Afrique.
C'est vraiment tous les Africains et toutes les personnes qui connaissent l'Afrique savent très bien que l'Afrique qu'ils vivent n'est pas l'Afrique qu'ils voient, n'est pas l'Afrique qu'ils entendent, n'est pas l'Afrique qui est financée, n'est pas. Il y a une
dissonance cognitive entre
ce qu'on vit et ce qu'on regarde. La perception. Et en fait, d'ailleurs, c'est une question à laquelle je n'ai pas encore répondu concrètement parce que, comme je fais beaucoup de choses à côté, et bon, long story short, acte 05, j'ai fait que ça 2020, 21, 22, une partie 2022. Là, ça fait un an et demi que je suis de nouveau avec la BAD. Acte 05, je suis la fondatrice d'acte 05. On continue à fonctionner.
Le cabinet tourne toujours.
Mais il y a des sujets qui ne rapportent pas d'argent. C'est aussi ça mon problème. C'est que j'aime beaucoup travailler sur des choses impactantes, mais qui ne sont pas forcément des choses qui peuvent faire une entreprise, comme la perception du risque. Okay. Combien coûte la mauvaise image de l'Afrique? Parce que ça a un coût, mais personne ne s'est assis. Bon, il y a Stan Zézé qui commence un peu, mais personne ne s'est assis. Lui, c'est sur la notation, c'est pas sur... Mais
il ne valorise pas la mauvaise image de l'Afrique en termes de...
Oui, mais l'image, c'est pas que l'image... c'est pas que l'image dans la communication, c'est-à-dire que c'est aussi dans l'éducation, dans la culture, dans la production de nos propres informations. Moi, je travaille avec des entreprises internationales, je reconnais le travail, l'impact, etc. Tout le monde sait que c'est pas les entreprises internationales qui développent les pays. On était avec le président Obasanjo du Nigeria, à Makutano, il y a une semaine, qui donnait des exemples de ce que lui il a fait pour relever le secteur privé, notamment en soutenant les champions, dont Dangote à l'époque, qui était déjà entrepreneur, mais pas celui qu'on connaît aujourd'hui. On parlait de il y avait Albert Zofac qui lui est banque mondiale, directeur de la banque mondiale, et qui disait mais nous, on, la Banque mondiale n'a jamais aidé aucun pays, n'a jamais développé aucun pays. Par contre, il y a plein d'exemples où ceux qui veulent, on les aide à se développer. Donc, encore une fois, c'est très important de voir la nuance entre ceux qui sont là pour permettre de faire les choses et les
ceux
personnes
avec
lesquelles
réellement.
Et ceux qui font réellement, parce que on a été trop dans l'attentisme. On a négligé trop de choses. Quand je parle d'information, une entreprise privée, une personne qui va faire une étude de marché ou peu importe, qui cherche une information, le recensement en Côte d'Ivoire, le n'importe quelle information, souvent tu te retrouves sur le site de la Banque mondiale pour avoir des infos sur ton pays. non, c'est la vérité.
C'est vrai, c'est vrai.
Parce que la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire ne produit pas ses propres informations. Et la Banque mondiale, c'est quoi ? La Banque mondiale, c'est pas l'Afrique, en fait. Là, on commence à en reparler, des Bretton Woods. Like, you know, we're not... on n'est pas dedans. Mm. On est dedans, mais on fait figuration. C'est Gbagbo qui avait dit à faire de photos. Je ne me rappelle pas la phrase. Il disait que... Lui-même, il dit, donc, je suis juste sous la photo, quoi, mais il n'y a pas la
j'ai
puissance
rien dit,
derrière.
Rien...
Ouais, voilà, je ne me rappelle pas la phrase, mais c'est dans les blagues. Mais là, aujourd'hui, on commence à être sérieux. J'ai vu la rencontre entre Macron et les chefs d'État. Ils ont reparlé de réformer les Bretton Woods, de réformer le Conseil de sécurité pour qu'on est là pour la photo. Et eux qui vont produire nos informations, là, ce n'est pas de l'image. C'est la perception que ça crée profondément dans le système mondial économique et qui touche toi, qui touche l'entrepreneur, qui touche tout le monde. Parce que ces informations-là, c'est ça, c'est sur ça que les pays sont notés. Quand monsieur tout le monde va faire son prêt à la banque, c'est ça. C'est pas sorcier.
Bien sûr.
Vraiment, tout est lié. Même la diaspora qui est en Afrique. Quand tu vas faire un prêt, tu as l'argent, tu n'es pas en train de demander de l'argent, tu as l'argent, tu veux faire un projet avec ton banquier, il est content, etc., etc. Jusqu'à ce qu'ils comprennent que ta maison que tu veux construire là est au Mali. Maintenant, ils bloquent, alors que c'est ton argent.
C'est ton argent, mais oui.
C'est juste que pour lui, le Mali, là, il y a un truc. Ceux qui connaissent du Mali, ce qu'on lui a vendu du Mali,
c'est le coup pas, d'état.
Voilà,
c'est
et voilà comment, même là-bas, la perception du risque, a priori, ce projet n'a aucun risque. Tu avais ton argent,
oui, t'aurais acheté, tu vas rembourser,
acheté, je ne sais pas dans quelle banlieue ou à Paris, il t'aurait donné l'argent. Il n'y a pas de risque puisque tu travailles, il a regardé tes papiers, il a regardé ton apport, il a tout fait. Mais à la fin, tu changes juste le nom de la ville où tu vas acheter ta maison, ça y est, ah ouais, mais non, etc. Parce que c'est la perception du risque. Parce que ce que la personne sait... De chez nous, c'est le risque en permanence. Sauf que quand je parle de combien coûte la mauvaise image de l'Afrique dans la perception du risque, c'est vraiment de se dire combien est-ce qu'on perd d'argent à cause des risques, par exemple, qu'on doit tout le temps couvrir. Parfois, c'est des risques
qui augmentent les taux de,
qui augmentent les
taux d'intérêt.
Ils sont à 9%. Moi, ouais. Je comprends même pas comment les gens sont à 9% sur monsieur, madame, tout le monde est à 9%. Et là, je reviens, c'est très important la responsabilité. Moi, je pense que nous, les Africains, on doit être responsables. En fait, le temps passe, on s'endort. Le truc de l'information est très important. C'est hyper important. Quand tu ne produis pas ta propre info, le recensement, il y a combien de jeunes
qui vote en
Côte d'Ivoire, on ne sait pas. Côte d'Ivoire, le pays le plus... Tout ce que tu vois en Afrique de francophone. Il y a combien de jeunes, on ne sait pas. On est en train de structurer l'économie numérique et tout ça et tout ça. Mais en fait, souvent, il y a des chiffres, tu demandes, personne ne sait.
Bien sûr, mais bon, nous...
Personne ne sait. Ils vont ils mettent pas du financement dessus. Ils vont attendre qu'une organisation internationale peut-être s'intéresse à cette question et puis finance ça. Mais ça va être les données de eux.
Et puis,
ils sont pas... Il faut comprendre. Je dis pas qu'ils sont méchants ou quoi. Non, mais personne n'a plus à cœur ta propre intérêt.
Bien sûr.
Donc là, je reviens sur l'exemple que je donne tout le temps. On a tous grandi avec le fameux tel pays vit avec 1 euro par jour, moins de 1 euro par jour, les enfants qui ont faim. Ça, c'est un exemple qui peut parler à tout le monde parce que tout le monde sait que c'est faux.
Alors qu'en effet, le niveau de vie n'est pas le même. Donc, 1 euro en France, ne vaut pas 1 euro en Côte d'Ivoire.
Absolument. Ouais. Absolument. Je suis désolée, mais les gens qui vivent avec moins de 1 euro par jour en Côte d'Ivoire, là, il n'y en a pas beaucoup. Parfois, parce que les outils pour mesurer PIB des pays, ce n'est pas nos outils. Mmh. Ils ne prennent pas en compte les gens qui mangent très bien, les trucs qui viennent du champ et qui n'ont aucun salaire, qui vendent des petites choses, qui gagnent de l'argent, qui ne sont pas bancarisés, 60% du secteur informel. Il y a plein de choses qui ne rentrent pas dans les outils du Bretton Woods, de la Banque mondiale, mmh. même de leur Doing Business mmh. rating they did.
You qui know, a été annulé, voilà. Enfin, qui a été arrêté.
Exactement, parce que ce n'est pas nous qui le faisons. Moi, quand je vois le travail de Stan, je me dis, OK, it's not Moody's, but you have to start somewhere. Mm-hmm. C'est vraiment, voilà, produire nos propres infos, c'est là où maintenant tu commences, on va convaincre que, voilà, quand tu fais un business, c'est pas plus risqué que, etc. Non. Et puis, c'est des environnements différents. Mm. L'Afrique n'est pas plus risqué que l'Asie il y a quelques temps, mais les gens y allaient. Les gens y allaient. Donc, à un moment donné, c'est vraiment nous, les Africains, de commencer à travailler à ces choses-là. Et ça ne coûte pas grand-chose. C'est juste qu'on... On minimise. Donc, le PIB, là, les banques, c'est sur ça qu'elles se basent. Mmh. Tout le système se base sur le PIB de la Banque mondiale. Mais on le sait. Je ne suis pas en train de t'apprendre tout ce que je te dis. C'est juste qu'en en parlant, tu te rends compte de l'impact de la chose. Sur nos quotidiens, mmh. sur absolument tout. On le sait que leur affaire de 1 euro par jour, là, c'est n'importe quoi. Mmh. On sait que c'est pas qu'ils n'ont pas compris. Ils savent, ils vivent ici, mais c'est juste que personne n'est parti lutter pour
ça. Non, mais oui, ça demande un effort particulier de créer de nouveaux agrégats que nous, on devrait faire.
Oui.
Comme le Bhoutan qui a sorti son bonheur intérieur du Bhoutan, je crois.
Ouais.
Ouais, bon, ils ont sorti leur truc pour mesurer le bonheur chez eux. Et...
On n'est pas obligé de faire la révolution, ouais. mais c'est juste, je veux dire, créer d'autres systèmes, tout ça. Moi, je ne suis pas sur le truc de créer d'autres systèmes. Il faut juste tenir compte des réalités locales. Comment est-ce que... Donc ça, ce sont des réflexions que les gouvernements doivent avoir. Comment est-ce que comptabiliser l'informel dans le PIB d'un pays? Parce que les gens vont à l'école, les gens se déplacent. Il y a Tidiane Thiam qui donnait cet exemple que tout le monde cite tout le temps, de quand il était à la Banque mondiale et qui disait oui, le numérique,
le
mobile, ils ont dit non, ils ont pas, les Africains, ils n'ont pas l'argent d'acheter les téléphones et donc ils ne sont pas allés dessus alors qu'ils n'ont pas compris. Ça, c'était à l'époque. Mais là, on le sait. Hmm. On le sait et on pousse pas assez quoi pour il s'agit pas de créer d'autres systèmes mais il s'agit de dire ok ces systèmes là sont faits pour des économies et des institutions déjà installées qui sont déjà organisées où tout le monde est recensé bancarisé on a des données etc mais pour nos pays on peut pas aller là-dessus et on doit être en permanence dans un plaidoyer de demander ou même de proposer parce que demander encore c'est un autre postulat que je veux pas mais même de proposer parce que les gens sont on n'est pas dans les années 40 je veux dire personne n'est plus intelligent que nous on a fait les mêmes écoles on a fait donc juste nous déjà avoir cette idée là prendre ça au sérieux et de proposer des manières d'intégrer le secteur informel, d'intégrer les revenus des gens pour calculer les PIB, pour calculer pour l'étude de marché quand on va venir
c'est très, très
faire
dur,
son
ça,
entreprise
hein.
ici.
Quand tu viens monter une entreprise, que tu n'as pas de chiffre consolidé sur un secteur, même des secteurs les plus de télécommunications, hein, des secteurs réglementés où normalement le régulateur devrait consolider les chiffres et sortir les chiffres de secteur par activité. Non, c'est pas le cas.
Non, c'est ça. Donc, tout ça, ce sont des questions qui m'intéressent. Et voilà. Donc, tu me disais carrière. Franchement, le poste de ma vie, ça serait un poste où on me donnerait l'argent pour mettre en place ce genre de choses.
Mais c'est ce que tu fais?
C'est un peu ce que je fais.
Ok, avec la
BAD. Alors, le projet sur le. Voilà, donc, GONAT, Governed Natural Resources Outflows in Fragile States. On aime bien les titres.
Pardon, redis-moi. Non, faut que. Donc, GONAT. Oui, mais il faut que les gens.
Governing Natural Resources Outflows in Fragile and Transitional States in Africa. Et là, donc, je couvre 6 pays la RDC, Tchad, Mozambique, Nigeria. Centrafrique et Sierra Leone, sur la gestion des flux, la gestion des ressources naturelles.
D'accord.
Sur deux aspects très précis, la vente illicite et les prêts indexés sur les ressources.
Pour réduire ces deux, enfin réduire la vente illicite, c'est ça?
Le travail, les résultats attendus du fonds, ce que nous finançons, C'est à la fin, on veut que notre travail permette plus de régulation, plus de compréhension de ce qui se passe, que ça permette le travail des autres experts, des autres départements, même dans le secteur privé ou d'autres organisations. Donc il y a une très grosse partie diagnostic.
D'accord.
Vraiment, il y a une, là, depuis un an et quelques, on est sur une grosse partie diagnostic. Déjà, qu'est-ce qu'il y a ?
Ok.
Déjà ça, là on parlait d'information. Donc c'est un flou artistique voulu évidemment, et c'est aussi
sur ton RDC. Sur ton RDC qui doit être un scandale.
Pas sur ton RDC, pas particulièrement. C'est un peu partout, et en réalité, sans pointer du doigt, je pense que le monde est tel, le monde est comme ça. Si chacun peut rendre les choses un peu floues, il va le faire. Mais comme nos institutions sont faibles, comme on est dans des systèmes qui sont pas encore où on a la possibilité de le faire, les gens le font plus.
Okay.
Mais moi, je vois les Français. Il y a plein de Français qui ont envie, les gens qui prennent l'argent ici, ils disent « Même si je pouvais, mais non, tu peux pas. » Parce que tes impôts, là, ils t'ont vu. Tu es dans le système, tu t'es garé. Moi, les gens qui se gardent dans je sais pas quel pays, et puis l'enveloppe arrive chez eux en France, que non, tu dois payer.
Bien sûr, mais oui.
C'est les systèmes tellement forts qu'ils n'ont pas la marge de le faire. Donc moi, quand on dit l'Afrique, je dis non, non. C'est pas des mauvaises personnes plus que toi, c'est juste qu'eux, ils sont à un endroit où ils peuvent le faire. C'est pas bien, mais c'est pas non plus un truc typiquement africain, quoi. Il faut
non, c'est le système.
Donc, voilà.
La preuve des évasions fiscales, hein, en Europe.
Voilà, merci. Donc, les évasions fiscales, par exemple, c'est les montages que les gars. Non, mais c'est quand même un travail. Donc, imagine maintenant si tu les mets dans un environnement, ils n'ont même pas besoin de travailler pour voler.
Ouais.
Vraiment, ils vont voler.
Bah, non, non, mais c'est sûr, c'est les systèmes qui vont.
Mais c'est les systèmes, c'est pour ça qu'il faut qu'on bosse sur nos systèmes. Et puis ça viendra sur la partie. Pour moi, l'argent doit aller là-bas. L'argent doit aller dans.
Et les prêts indexés sur les ressources. Donc, il y a une très grosse partie diagnostique.
Créer de l'information locale qui correspond à nos réalités. Parce que c'est ça qui va impacter l'économie tout de suite. Le développement, la vie des gens et la démocratie. Je ne vais pas rentrer, je te dis tout de suite, je ne vais pas rentrer sur les débats de démocratie, mais juste pour te dire que la démocratie, pour moi, vient derrière.
J'ai failli poser la question des coups d'État, mais ok.
Franchement, on va pas aller là, j'ai vu venir le truc. Mais tout ça pour dire, d'un point de vue économique, pour moi, la démocratie... Mais on a inclus le gravier, tellement c'est important. Donc, il y a toutes les ressources. Donc, la partie diagnostic permet de renseigner. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui sort? Qui fait quoi? C'est pas de l'audit, hein. C'est vraiment le but, c'est de renseigner pour qu'après nos collègues puissent travailler, réglementer, améliorer la gouvernance, etc. Nous, on suit pas les flux, mais on regarde les flux. Les flux nous renseignent sur cette partie diagnostic. Et c'est un travail qui est censé permettre derrière au gouvernement, au secteur privé, à la BAD, aux institutions de pouvoir travailler. Et donc, il y a cette phase-là. Derrière, on va quand même faire énormément d'appui en capacité, justement par rapport aux problématiques qu'on a découvertes. Le but derrière, à la fin, sur 2-3 années, les résultats attendus, c'est vraiment que le projet Gonad puisse permettre le développement local par la gestion des ressources naturelles. Donc, le Centre africain des ressources d'investissement et des ressources naturelles de la BAD, c'est vraiment ça, Human Development Through Natural Resource Development. Donc, on essaie de faire ce travail préalable parce qu'il y a énormément de personnes qui bossent, mais c'est des pays en telle fragilité que même, c'est là où je te disais que parfois l'impact, c'est pas évident. Parce que je sais que ça va renseigner, mais quand on voit la fragilité de ces pays-là, je sais que une fois qu'on aura ces rapports pays qu'on est en train de produire, des policy briefs qu'on va faire, qu'on va échanger sur les fragilités qu'on a découvertes, la gouvernance, etc., les outils qu'on propose, qu'on va former en appui en capacité sur des cadres de ce secteur-là par pays. Donc là, on va commencer par 25. On est en train de construire une plateforme dédiée à cette formation-là, faire des modules très spécifiques. Oui, voilà. Là, on est à la dernière phase. Il y en a 3 shortlistés. Là, on doit finaliser. Et en fait, j'ai conscience qu'il y a moyen que dans 5-10 ans, on doive recommencer. Un autre projet comme ça doit recommencer. Le flou artistique dont je t'ai parlé. On ne sait pas ce qui va se passer localement. Voilà, ça va bouger. De nouveau, on ne va pas savoir qui fait quoi, qu'est-ce qui sort. Voilà. Il y a des endroits dans nos pays où il y a des trains qui vont aux mines. Il y a des rails de trains. Donc, voilà, il y a des rails de trains qui vont de l'entreprise au client, au port où tu veux. aérodrome, je sais pas, tout ce que tu veux. Voilà. Donc tu peux renseigner, tu peux réguler, tu peux faire ce travail-là. Et c'est des pays d'une telle. C'est encore une fois, j'insistais sur les institutions et la solidité des institutions. C'est pas un truc africain, c'est juste que les institutions sont weak. Que même dans 5 ans là, mon rapport qui a renseigné, je pense que en Centrafrique il sera plus à jour. Juste, je pense que à certains endroits en ADC il ne sera plus à jour. On aura réorganisé d'une manière. Ils vont remettre le flou. Par exemple, donc c'est difficile. Moi, honnêtement, j'ai postulé, j'ai envoyé plein de candidatures à plein de départements différents et j'ai eu la chance d'être sélectionnée. C'est dur, c'est pas simple d'entrer. Maintenant, est-ce que c'est plus dur qu'ailleurs? Je sais pas si c'est plus dur qu'ailleurs. Honnêtement, parce que la BAD n'est pas le seul endroit où j'ai envoyé des CV. Il y a plein d'autres endroits où j'ai envoyé des CV où j'ai jamais eu de réponse. Maintenant, c'est une organisation internationale, donc ils reçoivent vraiment des centaines de milliers de CV. On dit que la meilleure façon d'entrer, c'est par les stages ou les consultances. Et voilà, pour répondre à ta question de la frustration, oui, c'est vraiment très frustrant. Je pense que tout le monde te le dirait dans les organisations internationales. C'est des rouages, c'est sur des gros projets. Là, mon projet, je sais qu'il a un impact, mais ça ne va pas forcément être un impact palpable comme ça, comme l'infrastructure où on va construire des routes. Donc, je pense que selon les secteurs, il y a plus ou moins de frustration. Par exemple, tous ceux qui sont côté secteur privé, je pense qu'il y a un petit peu moins de frustration parce qu'ils travaillent sur des choses beaucoup plus concrètes comme des fonds qui vont accompagner des femmes entrepreneurs et on voit le scale, on voit les résultats, tous les PPP, les partenariats publics-privés qui sont vraiment maintenant sur l'essentiel des projets d'infrastructure. Donc ça, c'est vraiment, c'est très bien. On voit les résultats quand on compare avant les projets des partenaires techniques et financiers, avant les PPP et après les PPP, vraiment, c'est le jour et la nuit. Donc voilà, donc ces secteurs-là sont peut-être moins frustrants que moi, ce que je fais là. Mais la frustration peut peut-être rester sur la lourdeur de l'administration parce que ça, c'est une grosse machine. Donc, pour faire quoi que ce soit, il y a des étapes pas possibles. Parfois, tout ne se passe pas dans ton département. Donc, tu dépends de trop de gens. Ouais, ça arrive. Non, franchement, c'est lourd, c'est long. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Si j'étais un compliment, j'hésite entre gentillesse et intelligence. Oui. Oui, je mentore et on m'a proposé de mentorer pendant longtemps et j'ai refusé parce que c'est comme quand tu m'appelles pour parler de mon parcours. Avant, je refusais parce que je sais pas, je trouvais que j'étais pas arrivée. Je me dis bon. Et puis, je pensais que ça prenait du temps parce que tout de suite, je sais pas, je pensais vraiment à un travail qui prend du temps. Et en fait, je suis mentor pour Mastercard sur la bourse d'excellence pour Sciences Po, donc depuis 2020. À un moment, je me disais, bon, peut-être que je mentore une personne qui est dans le même secteur que moi ou ce genre de choses. Je suis aussi marraine d'une école au Togo qui s'appelle Sigma. C'est une école d'excellence qui est vraiment excellente, privée, qu'un Togolais a créé là-bas, qui maintenant concurrence le lycée français, qui est en avant sur le lycée français. Et ils sont en train de... La seule chose qui fait que certains parents préfèrent le lycée français là-bas, c'est juste la facilité, après le bac, de partir. Et là, ils sont en train d'essayer de mettre en place des trucs avec des ambassades, avec de faire tout un travail. Mais sinon, sur la qualité de l'école, c'est incroyable. Monsieur qui a une histoire incroyable. Et donc, je me suis rendu compte en mentorant que ce que les mentis cherchent, c'est des choses auxquelles je n'aurais pas pensé, du quotidien, des petits tips du style ils n'osent pas demander quelque chose, ils ne savent pas à qui demander. Là, en l'occurrence, au Mastercard, c'était une qui venait du Nigeria, elle se retrouve à Paris, c'est un univers qu'elle ne connaît pas. Et du coup, c'était pas vraiment sur l'école, la recherche de stage. Bon, derrière, ça vient, mais c'est pas vraiment comment faire un CV. C'était pas des trucs comme ça. C'était comment comprendre le système, comment s'intégrer dans le système, comment être prête pour le monde, en fait. C'est même pas le système français. Comment les codes, les... Les codes. Donc je lui dis, écoute, les choses qu'on quand on a grandi en Europe. Mais je vois aussi beaucoup d'étudiants africains qui viennent, qui font leurs études et qui repartent et qui gardent ces difficultés-là. Déjà, beaucoup minimisent l'impact de rentrer dans des associations, du faire du bénévolat. Beaucoup, c'est vraiment pas du temps perdu. Moi, ça m'a apporté énormément. En fait, j'ai un réseau que je sais, des fois, je sais pas d'où je connais les gens, mais souvent, ça ne vient pas de mon travail ou de mes amis. Souvent, c'est que j'ai été impliquée dans quelque chose qui me sert aujourd'hui. Je suis à l'aise dans tel environnement parce que je me suis retrouvée grâce à une association. D'ailleurs, je me rappelle à l'époque avec Oser l'Afrique, une asso qu'on avait créée. On avait fait des choses, j'avais juste fini mes études. Franchement, on nous avait donné des responsabilités à l'UNESCO sur des choses que... C'était sur le forum de l'entrepreneuriat de la jeunesse de l'UNESCO ou le forum de la jeunesse de l'UNESCO, un truc comme ça. Et ils nous avaient demandé de gérer la partie, ils avaient demandé à l'asso de gérer la partie entrepreneuriat. Et ça consistait notamment à avoir un peu, à voir tout ce qui postule, les associations, les machins. C'est même pas validé, mais même regroupé par secteur, par truc, parce que c'est Afrique. C'est énorme. C'est pas, tu te dis, mais c'est parce que nous, on était déjà sur ces sujets-là, passionnément, sur ce que tu te retrouves là. Et là, je te parle du travail. Mais ce que tu vois pas, l'UNESCO, pour les personnes qui savent pas, le siège, c'est un énorme truc où tu te retrouves. C'est comme si tu étais, c'est comme quand on regarde tout ce qui se passe à Washington dans la télé, là, ou à l'ONU, dans les films. Nous, t'arrives, il y a les gens du monde entier. 150 drapeaux, les salles sont impressionnantes. Si tu dois parler devant les gens, si tu dois, même comment tu dois t'habiller, même comment tu salues les gens, même des choses auxquelles tu penses pas. Tu apprends tout ça. Tu vois, ça va pas. C'est pas parce que tu vas avoir ton master mention très bien là, ça va pas t'apprendre à comment on salue les gens. Ça va pas t'apprendre à est-ce que tu bois ton café ou tu attends. Ça va pas t'apprendre. Il y a des codes que voilà, donc il faut faire des choses, rien, parce que les gens, les Africains, bon, je reste sur les Africains, je dis pas que c'est que eux, mais je reste sur les Africains. Les Africains, c'est toujours oui mais je gagne quoi, oui mais non, tu veux quoi, toi tu veux aller où, moi je te dis tu fais ça, ça va t'apporter ça et ça et ça, et la plupart du temps c'est des gens, elle a une bourse d'excellence, t'as pas besoin de moi pour réviser, j'ai pas le temps pour toi en réalité, je veux pas t'aider dans tes cours. Mais quand elle me dit, quand je lui dis, écoute, est-ce que tu es sur LinkedIn? Tu suis qui? En fait, you know, like Google is your friend. Tu googles tout le temps. Moi, quelqu'un qui m'appelle, ça c'est vraiment les choses que je dis à mes mentorés. Une personne qui m'appelle ou qui m'envoie un message dans LinkedIn ou je sais pas où il a eu ma carte ou sur Instagram. Tout à l'heure, tu rigolais parce que je réponds pas aux messages. Instagram, c'est un défaut que j'ai. Je prends pas le temps de répondre, mais sur LinkedIn, parce que pour moi, mon Instagram est pas sérieux. Donc, bref. Et une personne qui m'envoie où je fais une story et puis la personne, elle me dit, ah, mais c'est quoi? Mais je vais même pas te répondre. Vraiment, si tu n'as pas googlé ça, toi, tu veux, moi, je prends mon temps pour répondre à un truc qui est sur Google. Ça, aujourd'hui, tu peux avoir n'importe quel diplôme d'un très haut niveau. Je vais me dire, mais si lui-là, il n'a même pas trouvé sur Google, tu ne me sers à rien. Parce qu'il y en a d'autres, ils ont le même diplôme, mais ils auront un autre bagou. Ils me sortiront dans des situations. Et je les embaucherai parce qu'ils ont ça en plus. Parce que si tu ne peux pas réfléchir au-delà, tu vois, c'est ça le problème. Le diplôme, c'est une expertise très scolaire. L'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale, l'intelligence d'aller chercher, l'intelligence de proposer, c'est ça qu'il faut apprendre, de se comporter, de s'adapter, c'est ça qu'il faut faire. On ne doit pas former des exécutants, c'est fini, voilà. Moi, je ne veux pas embaucher des exécutants. Franchement, clairement. Donc ça, c'est les choses que je dis tout le temps à mes mentorés. Suis les gens, c'est gratuit en fait. Suis les gens, il y a un forum, tu y vas, il y a un webinaire, tu y vas, c'est du temps. Mais on fait tous des week-ends Netflix, je sais pas quoi. Là, voilà, Arte est ton ami, je sais pas. Vraiment, hein. Google it, like n'importe quoi. Même Google les gens, Google. En fait, Google tout le temps. Vraiment, moi, c'est ce que je leur dis. Voilà, c'est ça. C'est difficile. C'est difficile. En fait, je veux en dire trois. Ça va peut-être pas parler à tout le monde parce que c'est dans ce qui me plaît moi, mais je veux dire pourquoi je les aime. Comme ça, les gens trouveront. Donc, j'ai beaucoup aimé Hannah Arendt. Hannah Arendt, qui a été une géopoliticienne, qui a été une stratège à l'époque de... Bon, Google, il faut la googler, quoi. Voilà, il faut googler Hannah Arendt. C'était à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, toutes les problématiques avec les Juifs. Elle était juive, elle a quitté tout ça. Et elle, c'était la première à poser des questions bêtes, en fait, qu'on n'ose pas poser. Ce genre Hitler, mais est-ce que lui, c'est le diable? Ou est-ce que ça, là, c'est l'homme? Est-ce que donc Hitler, ça aurait pu être toi aussi? Est-ce que ça... Question bête comme ça. Et donc, j'ai un trou de mémoire, mais c'est je sais pas quoi, de l'homme. Bon, je vais le chercher. Elle a créé son... c'est un bouquin révolutionnaire dans la manière de penser. Certains pourront parler du troisième sexe, de attends, Anna Arendt. Du troisième scène de Beauvoir. Donc Hannah Arendt, pour moi, c'est ça reste de la politique, de la géopolitique, de l'histoire, tout ce qu'on veut, mais c'est surtout la manière de penser, la manière de se questionner qui est intéressant chez elle. Ça peut être dans n'importe quel domaine. C'est vraiment les questions bêtes, c'est ça qui souvent ne pas hésiter à en remettre en question. Et en fait, on s'est rendu compte par son bouquin. On s'est rendu compte. Ah, c'est pour ça que je tatine. Ouais, sorry. On s'est rendu compte par son bouquin que voilà, ça permettait de partir du principe. En fait, quand on dit le plus jamais ça, c'est déjà dans tout ce qui se passe, c'est déjà d'être conscient que c'est l'homme. C'est-à-dire que nous tous, dans un certain contexte, on peut être Hitler. On peut être... C'est pas le diable. Parce que le diaboliser, c'est comme si lui, quand il est mort, le problème est mort avec lui. Mais non, en fait. Et Hannah Arendt, c'est... alors qu'elle-même, les juives, et c'est très difficile pour une juive de dire « Hitler, ce qu'il a fait, c'est ça, mais ça aurait pu être toi aussi, ça aurait pu être moi. » Donc, voilà. Parce que c'est plus simple de le diaboliser, de dire « c'est lui, c'est le diable. » Mais non, on le sait, tu vois. Donc, elle, ça a été ça. Le deuxième, c'est... Ouais, il faudra... Ouais, j'ai un trou de mémoire sur le titre du bouquin. Mais elle a fait aussi La Condition de l'Homme. Voilà, c'est... Elle a fait beaucoup de choses qui sont pas mal. Après, il y a un petit bouquin que j'ai lu, Le Tour du Monde de l'Entrepreneuriat. Non, c'est pas Le Tour du Monde de l'Entrepreneuriat de l'Afrique, mais... Moi, celui-là, il est pas mal aussi. Hein. Celui-là, il est pas mal parce que ça montre un peu l'entrepreneuriat sur le continent. Le troisième bouquin, c'est pas un bouquin en fait, c'est des gens. Le troisième, c'est chez Quentin Diop parce que le gars, on n'est pas encore à son niveau. On est en 2023. Moi, tu vois, tout ce qu'on raconte, tout ce que nos présidents vont dire à l'ONU, tout ce qu'on dit là, même dans tout ce que même j'ai dit ici, lui, il l'avait dit avant. Et des fois, il y a des choses que j'ose même pas dire parce que je veux pas qu'on dise que je suis perché. Et que lui, il l'a dit avant. Donc, je ne sais pas comment on le regardait à son époque, franchement. Voilà, donc, chez Quentin Diop, Hannah Arendt. Et puis, voilà, ces deux-là, c'est déjà pas mal, je trouve. Ouais. Le mot de la fin, c'est, continue à faire tes podcasts. Je suis sûre que ça inspire beaucoup. Ça inspire beaucoup. Et je pense que, moi, j'aime toujours dire qu'il n'y a pas besoin de faire des révolutions. C'est chacun à son niveau. Et ça, c'est... Je pense que c'est magnifique pour ceux qui écoutent. Donc voilà, le mot de la fin, c'est bravo. Merci.